Bonjour, bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer en arrivant. Et un grand merci pour cette introduction où nous avons pu recentrer sur notre Seigneur et sur son œuvre et la réalité du pardon. Alors, je vais vous lire un premier texte, je ne vais pas vous dire où il est. Et vous allez essayer, quand je m'arrêterai de lire, quelle est la suite. Hein, ne le dites pas haute voix, on n'est pas en train de faire un concours. Mais un jour, ça m'a tellement interpellé, alors je vous le partage. Vous essayez de voir, mais qu'est-ce qui est après ? Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent... Alors, pas besoin de donner la réponse, mais elles vous laissent... Alors, il y a là sept qualités morales que nous devons agiter à la fois. La connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel, l'amour. La qualité morale aussi. Pour, je vais vous le relire, merveilleux. Pour cette raison même, faites tout effort afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Nous avons tout en Jésus. Tout. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à saisir. Je ne vois pas moi-même comment toujours c'est possible, mais il a dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus. Alors, prenons ensemble un texte et on va réfléchir sur ce texte ensemble. C'est dans Luc 10. Et c'est un passage qui est connu, mais on va le lire ensemble et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de là, ce que le Seigneur aimerait nous dire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Et Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Alors, Marthe accueille Jésus et ses disciples. Donc, il y avait déjà du monde, il n'y avait pas qu'une seule personne. Et l'hospitalité au Moyen-Âge n'est pas du tout à comparer à l'hospitalité que nous pouvons vivre, nous, en Occident. On peut pratiquement imaginer que l'hospitalité était de la même façon que nous, quand on invite le dimanche quelqu'un pour le repas de midi. On s'affaire déjà le vendredi, on achète tout le samedi, le truc. Le dimanche, les gens là, et on a quelque chose. Ils faisaient comme ça. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Abraham qui dit à un de ses serviteurs, va vite apprêter un veau pour que ses amis puissent manger avec moi. Apprêter un veau, hein, ça met du temps jusqu'à ce qu'il soit cuit. Mais c'était comme ça. On accueillait la personne et on les accueillait avec le maximum d'honneur. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire et à préparer, énormément. Par contre, la sœur, Marie, que fait-elle? Elle s'assied aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. La traduction qu'on pourrait avoir et que certaines Bibles ont encore, c'est « elle écoutait sa parole ». Elle était là et elle écoutait. Donc, écouter vient d'un mot grec qui a de profondes significations. Ça veut dire entendre, mais entendre avec l'oreille de l'esprit. Entendre justement afin de mettre en pratique ce qui est dit. Il y a là derrière une volonté de comprendre, de saisir. Et normalement, c'est le mot « rhéma » qui devrait être utilisé pour ce que Jésus dit, pour désigner ce type de parole. Mais là, le Saint-Esprit a inspiré à Luc le mot « logos ». Et le mot « logos » est utilisé pour communiquer des messages, des pensées reliées entre elles, qui vont vers une structure solide. Nous avons aujourd'hui dans notre vocabulaire le mot « logique ». Mais c'est logique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui font que, ben, c'est logique. Donc, Jésus partageait là quelque chose et sa parole était plus que simplement raconter quelque chose. Et Marie, assise aux pieds de Jésus, écoutait, essayait de comprendre, saisissait ce que Jésus disait. C'était un acte délibéré. C'est ce qu'elle voulait, elle le désirait. Vous connaissez peut-être l'histoire, une histoire semblable même, de la petite Lina. Elle était en dernière année de maternelle. Quand Lina rentrait chez maman, elle avait tout à raconter. Alors, la maman, elle savait déjà d'avant tout ce que Lina allait lui raconter, mais elle le racontait quand même. Et elle raconte, et elle raconte. Et la maman était affairée à préparer le repas. Et la maman répondait, « Ah bon ? Waouh ! Ah oui ! Tiens ! Oh ! Ah !» Et elle continue, elle raconte. Puis d'un coup, elle s'arrête. Elle va chez sa mère et elle tape sur le côté. Elle dit, « Maman, maintenant on change. Toi, tu me racontes. » Et moi, je dis, « Ah, bon, et... » Lina avait compris que sa maman écoutait simplement comme ça, d'une oreille distraite. Elle avait saisi ça. Marie, quand elle était là, au pied de Jésus, et écoutait sa parole, elle voulait comprendre. Elle saisissait peut-être même des choses. Ce logos, cette parole, qui au début a créé l'univers, était là, debout, devant elle. Était là avec ses disciples. Alors, j'aimerais vous amener un petit peu dans cet univers, dans le système solaire. On va commencer par lui. Écoutez bien, c'est intéressant. À la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde, un rayon de soleil met 8 minutes pour atteindre la Terre. 300 000 km par seconde. Ça y va, hein ? Ce même rayon met 5 heures de plus pour atteindre Pluton. Et après avoir quitté notre système solaire, le même rayon doit encore voyager pendant 4 ans et 4 mois pour atteindre la prochaine étoile de l'univers. C'est une distance de 40 trillions de kilomètres. Mais pour Dieu, c'est tout simplement à portée de voix. Il l'a dit et la chose était. Ordonné. On a été au planétarium avec les petits-enfants la semaine dernière et le gars il disait on peut aujourd'hui calculer parce que ça suit un ordre. Il y a un ordre qui est donné et il y a des astres, on les voit que de temps en temps, mais c'est encore ordonné. Dieu a placé ça simplement par la puissance du Logos, sa parole. Le Soleil se situe dans une galaxie appelée la Voie lactée qui a la forme d'une soucoupe volante plate avec un bulbe central. Notre Soleil se trouve à peu près aux trois quarts de la distance vers le nord de la galaxie, le bord de la galaxie. Alors, pour se faire une idée de ce que cette distance représente, disons, si notre système solaire mesurait 2,5 cm, la distance pour atteindre le centre de la Voie lactée serait d'environ 600 km. Notre galaxie contient des centaines de billions d'étoiles. C'est un truc de fou, hein ? Nous, dans les villes, on le voit moins que dans le désert, dans les endroits où il n'y a pas cette pollution lumineuse. Il semblerait que c'est absolument merveilleux. Pourtant, la Voie lactée n'est qu'une seule galaxie parmi le trillion de galaxies que compte l'univers. Il y a 20 galaxies dans ce que nous considérons comme notre groupe local. Une deuxième catégorie le regroupe dans l'univers et ce que l'on appelle un superamas de galaxies. Dans notre superamas, le plus proche amas de galaxies appelé l'amas de la Vierge se trouve à 50 millions d'années-lumière de distance. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an. Pour mieux saisir ce que représente une année-lumière, imaginez que si vous rouliez sans vous arrêter à 90 km à l'heure, il vous faudrait 12,2 millions d'années pour parcourir ce que la lumière parcourt en une année. Vous réalisez un peu, c'est gigantesque, c'est immense, immense, immense. Et les astronomes estiment que la distance globale pour parcourir l'univers est d'environ 40 billions d'années-lumière et qu'il existe environ 100 billions de trillions d'étoiles. Et ils ne sont pas au bout, hein. C'est à peu près jusque-là qu'on peut estimer. Et Dieu, par sa parole, il a créé cela, par la puissance de sa parole. En le lisant, je me dis, mais est-ce que Marie saisissait ce qui se passait à ce moment-là dans leur maison? Est-ce que Marie saisissait, réalisait qu'elle était au pied du Fils de Dieu éternel, de cette parole de Dieu qui a engendré l'univers? Est-ce qu'elle le réalisait? Est-ce qu'elle le saisissait? Est-ce qu'elle savait qu'elle était devant la parole de Dieu devenue homme? Elle écoutait. Elle écoutait, elle entendait, elle écoutait avec l'oreille de l'esprit. Entendre justement, elle voulait savoir. Marie était assise au pied de Jésus et écoutait. C'était un acte délibéré. Elle le voulait. Elle était hébreu. Donc, elle avait entendu, comme chaque enfant juif, l'histoire d'Israël, avec Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, les 400 ans d'esclavage en Égypte, Moïse, la Pâque, les 40 ans dans le désert. Et elle devait connaître l'histoire du tabernacle. Vous savez, cette tente qui se déplaçait avec le peuple d'Israël. Elle en avait entendu parler, elle connaissait cette histoire. Les plans qui avaient été donnés par Moïse, il devait faire exactement comme il lui avait été montré dans le ciel. On lui avait expliqué que le tabernacle était dressé, donné les plans par Dieu parce qu'il voulait habiter au milieu de son peuple. Il aimait son peuple. Il ne voulait pas rester distant de son peuple. Et comme la religion le dit, on fait les choses et puis peut-être un jour on va le rejoindre parce qu'on a bien fait les choses. Non, il voulait habiter avec son peuple. Mais comme il est saint, et comme nous sommes tous des pécheurs, il ne peut pas simplement être là. On serait consumés par sa sainteté. Donc, pour nous protéger, il a fait construire un tabernacle dans lequel lui serait. Et envoyer le jour cette colonne de fumée, et la nuit, la colonne de nuée. Il était là. Est-ce que Marie... elle avait compris que cette personne qui se retrouvait là devant elle est le même Dieu que celui qui a dû protéger son peuple pendant tant d'années dans le tabernacle. Si maintenant nous rencontrions Dieu, ce matin on a entendu comment c'est possible de le faire par la foi, en ce que Jésus a fait. Mais si quelqu'un rencontre Dieu comme ça, moi je lui dirais ce que je pense de lui quand je le rencontrerai. Combien de fois j'ai entendu ça? J'ai réussi à m'arranger avec tout le monde dans le monde, je m'arrangerai aussi avec lui. La personne qui rencontre Dieu va fermer sa bouche, n'aura plus de plaidoyer, il sera rejeté. On ne peut pas, en tant que pécheur, habiter dans la présence de Dieu. Et ce Dieu trois fois saint a protégé, en quelque sorte, les humains. Là, elle était devant la parole. Est-ce qu'elle avait elle aussi compris qu'elle se retrouvait dans 1 Jean? Quand vous lisez le passage ou le prologue que laisse Jean, il dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ça, Marie le comprenait, le croyait. Mais quand on lit au verset 14, il dit « Et la parole s'est faite homme Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Est-ce que Marie réalisait qu'elle était devant cette parole faite chair? Et le mot qui est là où c'est marqué « habité parmi nous », le terme est le même que « la tabernaclée parmi nous ». À un moment donné, la parole a pris comme tabernacle la chair humaine pour pouvoir habiter au milieu de nous les humains sans nous consumer et pour pouvoir révéler qui est le Père et ouvrir la route vers lui. Est-ce que Marie comprenait tout cela? Mais en tout cas, elle était là, assise, désirant comprendre. Par contre, Marthe, sa sœur, elle s'affairait aux nombreux préparatifs. Alors, je la comprends. Elle était absorbée par les différentes tâches. Et il y en avait. Ils étaient peut-être plus de 10. Mais le verbe « affairer » veut dire, dans ce contexte, « traîner en tournant en rond ». Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est que Marthe était bien plus qu'absorbée par son travail. Sa tendance à trop travailler entraînait un déséquilibre dans sa vie. C'est ce que veut dire se traîner en tournant. Il y avait toujours, ça bouge, ça va, toujours. Il y a des gens, ils sont plus actifs, plus prolifiques plus, que d'autres, et ça bouge. Ça... Pour Marthe, être dans la présence de Dieu était une pression. Il fallait faire. Pour Marie, c'était un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Rien que deux situations différentes dans la même maison. Dans la même maison. Nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu. C'était le but de la création. Qu'on trouve notre identité en lui. Trouve le sens de notre vie en lui. Trouver notre raison d'exister en lui. Et le péché a tout gâché. Tout. Satan a réussi à tromper l'être humain et tout a été gâché. Et depuis, l'être humain vit, naît hors de la présence de Dieu. Mais dans son amour pour ses créatures, Dieu est devenu homme. Il a tabernaclé au milieu de nous. Jésus révèle le Père. Il n'est pas simplement un Dieu devant lequel on tremble, devant lequel on s'incline et auquel il faudra rendre compte un jour. Il est beaucoup plus que cela. Jésus nous a montré que Dieu est un Père qui, malgré tout ce que nous avons foutu en l'air, fait tout pour nous avoir auprès de lui et que nous puissions avoir de nouveau ce statut d'enfant de Dieu. Le chrétien est un enfant de Dieu. Cette parole, ce Dieu créateur de l'univers, c'est notre Père, par Jésus. C'est prodigieux. Est-ce que je réalise ça, moi, André, quand j'ouvre la parole de Dieu et que je commence à lire? Alors, un bon rappel aussi, le travail n'est pas la conséquence du péché. C'est ce qu'on entend quand même souvent. L'homme devait gérer la planète Terre avant le péché. Et ce n'était pas difficile, harassant, c'était créatif, épanouissant. Mais depuis que l'homme a choisi l'indépendance vis-à-vis de Dieu, le travail est devenu pénible. Il y avait des ronces, des chardons, il fallait se battre. C'est... Alors, le travail est un facteur équilibrant pour l'homme et la femme. Le loisir est un facteur équilibrant pour l'homme et la femme. Un certain confort est un facteur équilibrant pour l'homme et la femme. Vivre la famille est un facteur équilibrant pour l'homme et la femme. Mais rien ne devrait prendre la place qui revient à Dieu, c'est-à-dire la première place. Dès que ma vie n'est plus centrée sur Christ, christocentrique, on l'entend ça souvent, c'est un peu comme une roue dont on décentre le centre et les rayons plus courts là, c'est une roue qui tourne n'importe comment. très difficile de rouler avec un tel vélo. Il y a des endroits où on peut jouer à cela. Notre vie, toutes ces choses prennent leur juste place si je reste centré sur Jésus. S'il est lui la personne la plus importante. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 41? Il dit cette phrase. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit rentrer dans des monastères ou se mettre en haut d'un pylône comme le, je ne sais plus comment il s'appelle, il a vécu des dizaines d'années. Non, pas du tout. J'ai des responsabilités que Dieu nous a données. Mais dans tout cela, gardons Dieu, gardons Christ en premier. Il faut choisir la bonne part, celle qui ne nous sera pas enlevée, celle qui nous fait vivre, celle qui donne du sens à la vie. Développer une vraie et profonde relation avec Jésus, le Fils de Dieu, le connaître. Vous connaissez l'armée du salut. C'est William Booth et Catherine, son épouse, qui sont à l'origine de l'armée du salut. Ils avaient vu tellement de misère dans leur ville qu'ils se sont dit, il faut aider ces gens, il faut faire quelque chose. Et ils ont développé une œuvre qui est mondiale aujourd'hui. Alors, Catherine Booth, la femme et maman de plusieurs enfants, il semblerait qu'à l'âge de 12 ans, elle avait lu 8 fois la Bible. À l'âge de 12 ans. On peut comprendre, en voyant comment le Seigneur a utilisé ce couple, et particulièrement Catherine, on peut réaliser, mince, elle était remplie du Seigneur. Elle avait compris un tas de choses. Et il semblerait, quand elle prêchait l'Évangile, parce que c'est ce qu'il faisait, il ne donnait pas seulement à manger, il n'essayait pas seulement de les sortir de leur misère, mais de leur apporter le pain du ciel. Hein, c'est Jésus, quand elle prêchait, c'est comme si Dieu parlait à la foule. Elle était remplie de Dieu. Dans sa prière, Jésus dit effectivement, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vraie vie, c'est une relation avec Jésus, avec Dieu. C'est ça la vie. C'est pas réussir. Je te souhaite de réussir les études, d'avoir du boulot, de pouvoir être bien logé. Pas de souci. Mais la vraie vie qui est éternelle et qui commence dès le moment où je me tourne vers Dieu, comme on l'a entendu ce matin, cette vie éternelle est une relation avec Dieu, que vous connaissiez. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En 2005, on avait ouvert à Douai un bar, sans alcool, à l'époque sans tabac. Vous pouvez encore fumer à l'époque dans les bars, dans les restaurants. On a ouvert ce bar et il devait tourner grâce à des bénévoles qui venaient nous aider. Sinon, on n'y serait pas arrivé. Il ne rentrait pas assez d'argent pour un salaire à l'époque et on a démarré. Donc, quand les bénévoles venaient, on leur disait, sur les 7 jours de la semaine, pendant 4 jours, vous servez au bar. Vous prenez un jour de congé. Vous prenez un jour pour l'église, le dimanche, et un jour seul avec Dieu. Tous la même réaction. C'est quoi ça, seul avec Dieu? C'est clair, on se pose la question, est-ce que je dois me mettre dans un truc? Qu'est-ce que je dois faire? Et on va expliquer, non, tu prends la Bible avec toi, ou un livre qui parle de Dieu, qui est en train de méditer, tout ça, mais tu laisses de côté. Par la suite, il y avait beaucoup ces réseaux sociaux déjà. Laisse ça de côté. Laisse de côté tout ce que tu penses, tout ce que tu imagines. Et cherche Dieu pendant un jour. Fais-le. Et ça faisait partie. Alors au début, c'était... Alors je leur disais, si au bout de 2-3 fois, vous ne savez toujours pas comment vivre cette journée, on peut en reparler. Mais cherche, selon qui tu es toi, comment passer une journée seule avec Dieu. Nous avions tout au début un jeune qui s'appelait Emmanuel. Il était suisse et n'avait qu'un désir, c'est vivre en politique. Il voulait faire Sciences Po et entrer dans la politique, être quelqu'un qui se donnait les moyens. Il nous a quittés, il était quand même là de 9 mois à peu près, il nous a quittés avec ce un jour seul avec Dieu. Il est aujourd'hui pasteur de l'Église officielle réformée et il continue à dire la parole de Dieu. On veut le faire taire, il a dit, tant que j'aurai ce statut, je prêcherai la parole. C'est ça l'essentiel. Waouh ! On avait une professeure des écoles qui aussi, elle a tout ça. Ah ben là, on y est là. Vacances de Toussaint, elle me contacte et dit « J'ai entendu parler du bar, elle est alsacienne, j'aimerais bien venir travailler pendant une semaine de mes vacances. » Alors je lui dis « 7 jours, hein, toujours le même truc, un jour seul avec Dieu. » Non, pas de congé et pas de jour seul avec Dieu, moi je veux aider. » Alors je lui dis « Écoute, le congé, ok, on te le fait sauter, t'as encore la semaine après pour faire, mais cette journée seule avec Dieu, tu peux pas passer à côté. Si tu veux venir, tu la prends, sinon, bah, c'est pas grave, tu viens pas. » Et elle est venue. Et elle a eu sa journée seule avec Dieu. On peut vraiment dire comme ça. Puis elle est partie. Et un jour, avec Esther, on est invité chez une amie en Alsace. Et qui c'est qui n'est pas là? Cette professeure des écoles. Content de la revoir. Et d'un coup, elle dit, André, tu sais, cette journée seule avec Dieu, ça a bouleversé toute ma vie. Un jour seul avec Dieu. C'est touchant, je trouve. On est dans un rythme de vie qui absorbe tout. Et même les silences, le repos de l'esprit n'existent plus avec le... Ça n'existe plus. Pourtant, pour le connaître et développer une communion profonde et vraie, basée sur la vérité dans sa parole, il faut du temps. Il en faut. Il faut que tu vois, réfléchis, prie. Toi, comme tu es, qui tu es, la situation dans la famille, papa, maman, enfant, les études, le travail, les engagements, à quel moment je peux me mettre à part avec Dieu? À quel moment? Comment est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que... On est différents les uns des autres. Mais prenons ce temps. Et plus que simplement... Ah ouais, il faut que je lise pendant 5 minutes la Bible. Blablabla. Je l'ai lu, c'est bon. Si on me demande, je peux dire je l'ai lu. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de rencontrer Dieu, de connaître Dieu. La moyenne mondiale passée sur les réseaux sociaux par jour est de 2h15. Réseaux sociaux, pas Internet, le travail, tout ça, non. Donc environ 15 heures semaine, ce qui représente 2 jours de 7h30 de travail. Par semaine. Environ 60 heures par mois, ça veut dire 8 jours de 7h30 de travail par mois, je passe sur les réseaux sociaux. Ce qui fait sur une année 720 heures. Donc environ un mois de l'année, je le passe sur les réseaux sociaux. Nous savons que les réseaux sociaux, celui qui présente quelque chose ou dit quelque chose, il se montre la meilleure partie. Je peux vous montrer des photos qu'on m'a fait. Je roule une moto incroyable, c'est l'IA qui l'a fait. Mais on existe au travers de ça. Et toi qui le lis, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Mais tu passes 720 heures par année à regarder. Alors que là, nous avons la parole éternelle de Dieu. Il veut se dévoiler, se révéler, nous transformer, nous amener plus loin, donner du sens à la vie, nous redonner une identité. C'est ce qu'il veut. Et nous, on n'a pas le temps. Quelques mois après ma conversion, j'étais éducateur en internat. J'avais envie de connaître Dieu plus. Et alors j'ai cherché, est-ce qu'il n'y a pas des métiers où on peut... Et j'ai trouvé veilleur de nuit. Veilleur de nuit, j'étais embauché de 18 heures. À 6 heures, 12 heures. Pendant ces 12 heures, j'avais au maximum 1h30 de travail. Le restant, j'étais dans un genre de mirador très grand et très spacieux, avec cuisine et tout. Je devais observer et noter tout ce qui se passait, ce qui entrait et qui sortait jusqu'à 6 heures du matin. Certains travaillaient la nuit, donc ils entraient, ils sortaient. Je marquais le numéro, je marquais tout. Et je peux dire honnêtement, j'avais entre 9 et 10 heures de temps pour lire la Bible, prier, chercher Dieu, lire d'autres livres. Ça bouleversait toute ma vie. Et je suis reconnaissant aussi aujourd'hui au Seigneur de ce qu'il nous a laissé sa parole et que le Saint-Esprit nous l'explique. Vous comprenez, les gens me disent parfois, mais André, ça c'est du carton, c'est du papier avec de l'encre, c'est tout. Qu'est-ce que tu... Ok, c'est ça. Je la déchire, elle est déchirée, je la brûle, elle est brûlée. Mais comment ça peut être la parole de Dieu? On va faire un essai. Tu essayes de me dire « Bonjour André » sans utiliser le souffle. Il ne faut pas sans souffle. Allez-y. Ah, il y en a qui ont triché, ils ont oublié le souffle. Impossible d'entendre de son si tu ne fais pas passer le souffle. Donc la parole de Dieu, ça, c'est de l'encre. C'est des paroles écrites dans ta langue, dans tout plein de langues. Mais lorsque le Saint-Esprit y insuffle son vent, il est appelé le vent, le souffle, le Saint-Esprit, ça devient audible pour toi. Tu commences à la comprendre, tu commences à la saisir, et une relation avec Dieu toute différente se met en place. C'est des révolutions dans la vie. Un autre passage dans Colossiens 2, Dieu, Paul dit, en lui se trouve, donc en Jésus se trouve caché, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ. À moi, à nous, de chercher, d'essayer de comprendre, de nous aligner, d'accepter. Marie avait choisi la bonne part. Plus nous connaissons Dieu, notre vie change. Le regard sur la vie change. Notre regard sur l'autre change. Le monde change. Je n'ai plus le même regard sur la mort, ni sur l'éternité. Parce que la vérité, la réalité de Dieu commence à s'imprimer et à se développer dans mon être tout entier. Et je trouve que c'est absolument merveilleux. Jean 21, 25, Jean écrit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les décrivait en détail, je ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Je veux bien le croire. Dans tout ce qu'il était représenté, dans tout ce qu'il a partagé avec ses disciples que nous, on ne sait pas, on a l'essentiel. Il dit que tous les livres ne suffiraient pas. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Pas pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Dieu a des trésors qu'il veut te partager. Prends du temps avec lui. Lorsque nous étions fiancés avec Esther, être assis sur un banc, ensemble, c'était le ciel sur terre. Pas besoin de parler beaucoup. On s'aimait, on était heureux. De temps en temps, la main. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec. Et plus on passe du temps avec, plus on la connaît. Nous sommes humains. Parfois, on peut se dire, ah bon, elle est comme ça aussi. Ou elle peut se dire, ah bon, ça c'est André. Mais Dieu, non. Je découvre la beauté parfaite. Le sens de la vie. Le pourquoi je suis là. C'est absolument merveilleux. Mais maintenant, une question. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour avoir du temps avec Dieu? Alors, la vie d'Église, Dieu veut que ses enfants se retrouvent, s'encourager, se fortifier, étudier sa parole, chanter, louer, prendre le repas du Seigneur, se voir pour travailler ensemble. Mais tout cela devrait être la pointe de l'iceberg. Et ma vie avec Dieu, seule, dans ce que je découvre, c'est l'iceberg en dessous. Et plus ça, c'est solide et fort, plus la pointe sera belle et grande. Vous comprenez? Alors, je vous laisse cela. Prenez-le. Vous avez une Bible, sinon ce n'est pas cher en France, on peut en avoir à tous les prix. Mais prenez ce livre. lisez-le en sachant que c'est la parole de Dieu. Franchement, je peux te dire de sa part, il veut te révéler des choses que tu ne peux même pas imaginer. Mais tu passes à côté. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci parce que ta Bible, la Bible, ta parole existe encore aujourd'hui. Quand je pense que Voltaire avait dit que quand il serait mort, il n'y aura plus aucun livre de Bible sur terre. Et sa maison natale est devenue une édition de la Bible. C'est ton humour, Seigneur. Et nous sommes là en 2025, on arrive à la fin, mais on a encore ce livre. Et tu t'y révèles, on peut te connaître. Donne à mes frères et sœurs, à moi-même, de ne pas passer à côté de cela. Nous entrons et nous touchons l'éternité lorsque nous te découvrons et avons cette relation avec toi. Je t'aime, Seigneur, et je suis content d'être ton enfant et d'avoir le droit de vivre avec toi et de te voir le jour de ma mort ou de ton retour. Bénis mes frères et sœurs. Amen. Amen.